Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la partie du cycle liturgique qui arrive à la fin de l'année liturgique 2013. Et donc, la volonté, l'esprit de la liturgie gallicane, c'est en quelque sorte de faire vivre aux chrétiens, à travers la liturgie, en une année, comme est toute une vie. Et donc, chaque période de l'année, chaque dimanche, va reprendre un thème et va nous conduire dans l'espérance qui est la nôtre. L'espérance qui est la nôtre, c'est que nous sommes tous et toutes appelés à rejoindre le Christ dans sa gloire. Le Christ est, on dit souvent, le Christ est venu pour absoudre nos péchés, et il est venu à cause de nos péchés. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Le Christ, il est venu, et c'était prévu de toute éternité, pour se faire homme et pour que les hommes soient participants, associés à la divinité. Et c'est pour ça que dans les églises gallicanes, au 8e et 10e siècle, on trouvait cette représentation du Christ en gloire au fond, derrière l'autel, pour bien signifier à tout le peuple que c'est vers cette dimension que nous sommes appelés à cheminer, vers cette dimension de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, l'Épître et l'Évangile sont dans la représentation et l'expression de cette dimension de la gloire de Dieu à laquelle nous sommes tous et toutes appelés. Jésus parle en parabole. Il utilise la dimension symbolique parce que la parabole a quelque chose de beaucoup plus universel qu'un long exposé théorique. Dans quelques régions du monde, si on parle du soleil, que quelque chose est comme le soleil, eh bien tout le monde va ressentir la chaleur, la lumière, et il n'y aura pas besoin d'autres explications. Et donc, la parabole présente une grande richesse en associant des images à l'idée que le Christ veut exprimer. Ce qui est aussi important, c'est que les images qui sont évoquées à travers les paraboles sont des images qui restent gravées en nous et qui peuvent cheminer avec nous, ressortir au fur et à mesure des jours. Et donc, il est plus facile d'y repenser et de s'interroger intérieurement sur le sens de ces paraboles. C'est pour ça que le Christ utilisait beaucoup cette façon de communiquer et d'enseigner. Aujourd'hui, nous avons deux paraboles. La parabole du grain de sénévé et la parabole de la levure dans la pâte. Eh bien, ces deux paraboles, elles ont tout d'abord un certain nombre de choses en commun. La première des choses qui est très chère à notre Église, c'est l'image et l'idée de la transformation, l'idée de l'évolution. Ça, c'est quelque chose de fondamental que vous allez retrouver en plusieurs éléments dans la liturgie, où on parle de cette évolution de l'homme. Nous sommes sur terre et notre vie est faite pour que nous nous transformions, pour que nous devenions quelqu'un d'autre à travers cette vie, à travers la liturgie, pour bien sûr rejoindre cette dimension céleste. Alors, dans les paraboles, eh bien, on va retrouver cette image que derrière la parabole, il y a quelque chose qui parle de l'homme et il y a quelque chose qui parle de l'humanité, pour que l'homme et l'humanité accèdent au royaume des cieux. Et puis dans ces paraboles, il y a aussi un élément extrêmement fort, c'est que ce qui est présenté à la fin est radicalement différent de ce qui est au début. Et donc ça, c'est les interrogations et les questionnements qui nous sont proposés. Ce que le Christ nous dit, c'est en fait comment faire grandir en nous le royaume des cieux. Comment le rendre accessible? Comment le rendre présent? Cette question de la présence, c'est quelque chose que l'on retrouve tout au long de l'année, tout au long de la liturgie. Être présent à Dieu, ressentir cette chaleur, ressentir cette proximité, ressentir cet échauffement du cœur, comme les pèlerins qui cheminaient sur le chemin d'Emmaüs et qui marchent avec le Christ. Et il est dit, pendant qu'il parlait avec nous, notre cœur était vibrant et échauffé. Eh bien, c'est toute cette question. Comment trouver cette vibration et comment trouver cette chaleur et cette proximité? Dans les paraboles, aujourd'hui, eh bien, cette parabole de la graine de Sénévé, qui est une toute petite graine au départ, eh bien, c'est d'abord l'histoire du travail spirituel. Comme le jardinier va planter des graines dans son jardin, eh bien, quelque part, l'homme est comparé à cette plante et à ce jardinier qui vont travailler pour planter quelque chose. Il y a cette dimension de l'action humaine dans la transformation. Ça, c'est quelque chose d'important. On le retrouvera aussi dans l'image de la pâte. Alors, qu'est-ce que c'est cette graine? Eh bien, on pourrait dire, cette graine, c'est la graine de la foi. C'est la graine de notre croyance qui, en grandissant, nous permet d'accéder à une autre dimension et nous permet de rencontrer Dieu. Et lorsque l'on lit et lorsqu'on croise l'Épître, eh bien, l'Épître nous dit, c'est, alors il parlait de l'Église de Thessalonique, votre foi si agissante, c'est aussi votre charité courageuse et c'est votre espérance à toute épreuve dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on pourrait dire, par rapport à cette graine de Sénévé, la graine, c'est la foi. L'espérance, c'est tout l'engrais qu'il va falloir apporter à cette graine. Et puis la charité, c'est peut-être le jardinage qu'il va falloir mettre autour pour qu'elle puisse grandir. Et que de toute petite, parmi toutes les plantes du jardin, elle puisse pousser, elle puisse s'élever et à la fin devenir une plante qui dépasse dans le jardin toutes les autres, qui est même tellement grande que les oiseaux du ciel peuvent venir y nicher. Qu'est-ce que le Christ veut nous dire à travers cela? Eh bien, le Christ nous dit que si nous faisons grandir notre foi, eh bien, cette foi va nous permettre d'accéder aux réalités célestes. À travers ces oiseaux du ciel qui viennent se percher dans les branches, eh bien, c'est cette dimension, c'est-à-dire cette graine enfouie dans le sol, elle passe à une toute autre dimension, et une dimension qui est tellement élevée, eh bien, que les oiseaux du ciel, qui sont dans un tout ordre, autre ordre des choses, vont pouvoir venir se réfugier dans cet arbre. Eh bien, ça, c'est toute l'image, de tout le sens du développement, de la transformation que le Christ demande à cette humanité pour passer de la réalité terrestre à la réalité céleste, pour que cette humanité s'élève et accède à la divinité et pour se rapprocher de cette dimension christique qui est, voilà, en toile de fond dans notre chapelle et qui doit être en toile de fond de notre vie comme la trace et la ligne de vie que l'on doit suivre. L'Église, elle est là, et la religion, elle est là pour enseigner non pas des éléments de morale, non pas des éléments d'interdit, elle est là pour faire accéder les chrétiens à la liberté. La liberté, elle donne accès à la vérité, et le Christ a dit « la vérité vous affranchira ». Eh bien, c'est tout le travail qui est résumé ici. Le travail spirituel, il est aussi comme l'image de cette cuisinière qui prend 3 mesures de levure et qui les met dans la pâte. Encore une fois, qu'est-ce que c'est ces mesures? Eh bien, c'est pour nous, à notre dimension, la foi, l'espérance et la charité, les 3 vertus de la théologie. Eh bien, cette pâte qui lève, c'est aussi une transformation complète. Et on peut imaginer la suite, c'est là la force des images que le Christ emploie. On pense à cette pâte qui lève, on pense à la cuisson, on pense à l'odeur de ce pain ou de ce gâteau, suivant ce que c'est. Et puis on pense à la joie du partage en famille ou avec des amis. C'est très évocateur toutes ces paroles. Et ces paroles, eh bien, elles nous enseignent les secrets cachés depuis le commencement du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui est cité. Et ça, ce prophète, c'est Isaïe qui annonce la venue du Messie. C'est la religion qui est enseignée par le Christ. C'est de donner à chacun ce qu'il peut recevoir, c'est de lui confier les outils pour comprendre le sens de la vie. Ça, c'est vraiment ce qui est essentiel. Et comprendre ce sens de la vie, non pas seulement avec la dimension intellectuelle, mais surtout la comprendre avec l'intelligence du cœur, avec l'évidence ressentie en chacun de nous du chemin qui doit être le nôtre, trouver notre axe, trouver le sens de notre vie, le but de notre existence. L'Église, elle n'est pas là pour s'attacher à des petits détails dans l'organisation de la vie des hommes, elle est là pour leur donner le sens de l'existence tout entière et surtout de raconter le chemin qui mène au royaume des cieux. Et c'est ce que fait le Christ et c'est ce que tous les religieux doivent essayer de transmettre à sa suite dans le cadre de la messe de ce dimanche. Avec l'épître, parce que dans la liturgie de la parole, il y a toujours un évangile et il y a toujours un épître. Eh bien, il faut savoir que l'épître, il vient accompagner. Parfois, on ne sait pas trop comment les paroles, souvent c'est saint Paul qui est évoqué, et on ne comprend pas trop comment ça s'articule. Aujourd'hui, la clé de cette épître, c'est de comprendre que l'Église de Thessalonique est présentée comme un modèle d'équilibre dans la relation au sein de la communauté, et ça nous donne une clé, c'est que la levure que met la cuisinière dans sa pâte, que nous devons mettre dans notre travail spirituel, eh bien, ce n'est pas une levure désincarnée, non. La pâte, c'est ce qu'on appelle la pâte humaine de toutes nos relations avec ceux qui nous sont proches. Jésus parle d'une communauté. Une communauté, ça veut dire c'est les gens qui sont ensemble. Aujourd'hui, ça nous rapproche de nos voisins, de nos familles, d'un cercle restreint. Ce qui nous est demandé, c'est pas demander d'aimer l'humanité tout entière comme ça d'un seul coup et d'une façon désintéressée. Non, c'est de commencer par ceux qui sont véritablement autour de nous et que nous côtoyons tous les jours. C'est ça le sens de la notion de communauté. Et puis encore, le Christ parle que cette église de Thessalonique, eh bien, elle a fait des efforts et elle est aussi un modèle de transformation. À un moment, saint Paul dit, vous avez abandonné les idoles, vous vous êtes convertis à Dieu. Se convertir, c'est se retourner, c'est changer le sens de sa vie. Eh bien, cette église de Thessalonique, elle est présentée comme cela. Et elle est présentée comme cela parce que si nous marchons et si nous commençons à percevoir le royaume des cieux, eh bien, c'est aussi quelque chose qui doit se traduire dans notre vie et être en interaction dans notre vie. La dimension religieuse, la dimension spirituelle, elle n'est pas en dehors de la vie, mais elle est dans notre vie, dans notre relation aux autres, dans la fraternité, dans l'accueil, dans le partage, dans beaucoup de choses de la vie de tous les jours. Et donc, l'épître de ce jour, il apporte cet éclairage plus pratique sur le travail de la dimension de l'âme. On pourrait dire que le Christ parle dans la dimension de l'esprit et que saint Paul parle dans la dimension de l'âme. Dans la dimension de l'âme, avec cette relation avec les autres, cet échange qui est un élément extrêmement important de notre vie et de notre incarnation humaine. Et donc, changer notre modèle de vie pour se tourner vers le Dieu vivant et véritable, c'est ce que nous demande le Christ, eh bien, c'est se tourner vers cette dimension céleste et spirituelle. Ça veut dire, c'est pas abandonner la dimension terrestre, parce qu'on y reste toujours les deux pieds ancrés dedans, mais c'est élever son cœur et son âme vers cette dimension terrestre et faire que notre vie terrestre soit conduite par des dimensions qui sont spirituelles et célestes. Et aujourd'hui, eh bien, par ces mots, par ces images, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'énergie qui agit derrière ces paroles, eh bien, ce Verbe de Dieu, il vient nous toucher, il vient ouvrir notre cœur à cette réalité, et le but, c'est de nous faire naître, naître à une vie nouvelle, naître comme une graine d'amour divin, et nous redire que nous sommes appelés à cette croissance vers le royaume des cieux, aujourd'hui, dans ces derniers dimanches de la liturgie catholique. C'est ce que je demande pour vous et pour moi-même dans cette messe. Beaucoup trop.
Ben oui, il semble aussi, c'est beaucoup trop.
Thank you.